Joseph Malègue, Augustin ou le maître est là. Chapitre 1er, matine, deuxième partie, les hautes terres. L'autre compartiment de souvenirs était réservé aux hautes terres du Cantal. On se rendait là en plein été, 2 ou 3 semaines après le début des grandes vacances. Il y avait eu plusieurs expéditions semblables avant la naissance de la petite sœur. Là aussi, les souvenirs se mêlaient. On ne pouvait retrouver au juste à quelle époque de la préhistoire remontaient quelques-uns d'entre eux. Détachés de leur souche, ils erraient en un temps sans date et ne savaient où se poser. L'état d'esprit des voyageurs différait devant le voyage. Monsieur Méridier emportait des notes, des livres et se promettait des joies abstraites. Maman disait « Ah, si ce n'était pas la santé des enfants !» Mais Augustin comptait les jours. Un remue-ménage de malles et d'armoires ouvertes durait jusqu'aux petites heures du matin. D'autant plus gros de promesses qu'il s'efforçait d'être silencieux, il annonçait l'approche d'un bonheur immense qui filtrait par toutes les claires-voies de la nuit. Cette joie active et proliférante se nourrissait toute seule pendant qu'on dormait, grossissait, finissait par faire éclater le sommeil. Augustin se trouvait réveillé à des heures paradoxales et inidentifiables, pour voir que sa jeune maman circulait encore sur des pantoufles sourdes, masquant la lampe de sa main gauche quand elle passait devant les petits lits. Alors, il comprenait que ce bonheur était réel, presque arrivé, riant déjà dans cette couleur de vieille paille distillée par la lampe à huile. Son cœur, libéré d'une trop pesante joie, désormais étale et doucement heureux, lui laissait juste le temps de sentir contre sa joue le tiède et lisse oreiller d'enfant avant de retomber au sommeil. Du voyage en chemin de fer, peu de choses en vérité surnageaient. Il y avait 2 sortes de wagons, les vrais, ceux de 3e classe, seul cadre convenable aux obligations multiples qui incombent à un petit garçon réfléchi. Faire attention, ne pas perdre le paquet qu'on serre dans ses bras, rester bien tranquille sur le siège marron sale, en attendant que tout soit casé. Et puis les autres, capitonnés de bleu et de gris, qui n'ont pas l'aspect des vrais voyages, ne sont pas destinés aux vrais voyageurs. L'idée ne viendrait pas à une personne raisonnable d'aller s'y asseoir. Il y avait aussi 2 sortes de paysages. Celui qui traversait les premières lenteurs du train, les voies enchevêtrées, les cabines d'aiguillage, les maisons d'ouvriers bordant des rues écrasées de charrois. Ces paysages ne comptaient pas. On passait sans les voir, comme on n'écoute pas un mot malsonnant. Il commençait de compter dans la grande campagne quand il glissait à contresens d'un train dont la vitesse de fuite amusait et décevait à la fois. Car le papa d'Augustin lui avait expliqué les différentes espèces de trains. Distincts des omnibus étaient les grands express dédaigneux qu'Augustin prendrait plus tard, qui vont vers les lointaines villes. Et le convoi, haletant, continuait son voyage entre des talus en fuite, poussifs et méprisés. Dès qu'enfin l'on atteignait la petite gare perdue où attendait la diligence, le paysage redevenait affectueux et immobile, non plus en contrebas du train, mais de plein pied avec le sol. Il perdait son aspect glissant et instable. Il avait repris racine dans la calme terre. Il vous enveloppait de son long repos, et malgré cela, pénétré par l'esprit du voyage, il semblait le prolongement des 12 endroits campagnards dont on lisait le nom en lettres jaunes sur les côtés de la voiture près de la boîte aux lettres. Il était l'extrême pointe des contrées où l'on passerait bientôt. Des paysannes chargées de paniers se rendaient à ces contrées. Elles montaient à l'intérieur de la diligence, tandis que le papa et la maman d'Augustin retenaient les places de devant qui coûtaient 10 sous de plus. On pouvait, à condition de les contourner avec prudence et d'assez loin, contempler les deux gros chevaux à la queue nouée autour desquels tourbillonnaient les mouches. Ils les chassaient en vain avec cette queue trop courte, avec leurs pieds, avec les plissements vagabonds de leur peau. Ils sentaient une forte odeur, pas désagréable. Ils sentaient le cheval. Tout était si beau qu'on éprouvait, gonflant le cœur, ou peut-être les poumons, ou peut-être le larynx. Augustin connaît le nom de tous ses organes. Une envie de chanter ou de crier. Michelou, le conducteur, hissait par l'échelle des mâles qu'il abattait ensuite sur le toit de la diligence. Mais il goûtait peu la continuité dans ses emplois du temps violent. Il les aimait mélangés de rire, de repos et de vin blanc. Aussi querellait-il en rude patois des planèzes les paysannes au panier, tandis que la courbe de son ventre, expansive et déboutonnée, tremblant sur sa ceinture en secousse débonnaire, faisait signe que c'était pour rire et qu'il ne querellait pas. Quand tout était chargé, les bâches posées, le véhicule déjà dans cette puissante immobilité d'avant les démarrages, Michelou décevait encore ses clients en s'enfonçant aux profondeurs d'une des deux auberges qui contemplait la gare. La diligence attendait, interdite et stupéfaite, comme un énorme enfant abandonné. L'auberge rendait un Michelou tout frais, mal essuyé, humide encore. Ses grands mouvements de brin exprimaient un vague pathétique. Au hasard de la trajectoire, le dos de sa main trouvait l'occasion d'assécher ses moustaches d'un air désespéré, tandis qu'il déplorait par le reste de son geste de n'avoir même pas le loisir d'effectuer correctement cette opération, pourtant fort nécessaire. Enfin, d'une course dont le rythme se transmettait à son ventre, la double et vaste convexité de ses jambes faisait de son mieux pour regagner par des moyens bien insuffisants le temps que lui avait fait perdre l'importance du chargement, 1000 circonstances adverses et la volonté des destins. Alors, le vrai paysage commençait. C'était une de ces plaines minces et longues, prises entre l'écartement provisoire des éperons boisés. Dans la densité de leur grasse substance d'herbe, se cache la saveur des terres alluviales et l'imprégnation profonde des eaux. Des odeurs de foin sec et d'étable envahissaient l'air des villages, ceux du moins qui se laissaient traverser. Mais d'autres, plus secrets, tournaient le dos à la route. Derrière le profond écran des buissons percés de trous de poules, on ne voyait que leurs envers. On ne savait de leur vie qu'un morceau. Ils ressemblaient au milieu trop court d'une belle histoire dont on ignorerait toujours le commencement et la fin. Dans l'intervalle des villages, ce n'était que poussière, soleil et verdure, l'odeur des chevaux, le balancier des nœuds de crin battant les grosses croupes et la soudaine obscurité de quelques boqueteaux que traversait la route. Or, toutes ces choses, si différentes, parlaient. Elles parlaient si bas qu'un certain nombre de kilomètres avaient dû passer avant que vous vous en aperceviez. Mais vous compreniez alors que c'était votre faute et qu'elle parlait déjà depuis longtemps. Bien sûr, elle ne savait dire aucun mot qui fût clair, prononçant par exemple, comme eût fait un livre d'images, « Ce champ de blé est d'un jaune riche » ou « Cette meule de foin est pittoresque ». Qu'importe, un grave et sensible petit garçon de 7 ans savait se passer de mots pour apercevoir, diffus et en suspens dans la campagne, un mélange de bonheur et de bonté qui n'a besoin pour se poser d'aucun visage d'homme. Mais, affecté de timidité subite, lorsque maman regarde son petit enfant pour lire dans ses yeux la transparente joie qu'elle espérait, Augustin cache brusquement sa joue et son front contre les bras maternels. Il entend par-dessus sa tête « Allons, allons, gros bêta, aide-moi donc à tirer les paniers. » Nulle apparence, maintenant, que le paysage ait jamais parlé. Tout n'est que rondelles de saucisson, fruits, fromages, comme la fameuse statue n'était qu'odeur de rose. Des carrés d'un panier spécialement friable dégorgent sur les genoux de maman de bonnes tranches de grillade froide. On verse avec précaution du sel sur des œufs durs. La petite fille veut boire avant de manger. Il faut parlementer longtemps pour l'en dissuader. On transmet à papa les portions qui lui reviennent avec un verre de vin qui tremble au bout d'un bras. Des gouttes de vin, des pelures de saucisson et de fromage tombent sur la belle caisse jaune. Augustin se sent fort anxieux de ce qu'au prochain arrêt fera Michelou. Un instinct secret et blasphémateur lui suggère qu'en cas de conflit, son père ne serait pas de force. Mais Michelou dit seulement « Ah ah, vous avez fait boire la petite famille !» En même temps que des grimaces et des clignotements sur un visage devenu soudain plissoté et resté rubicon, lui donnent un air de camaraderie complice, une familiarité et presque une amitié née d'un vice commun. Hélas, rien ne dure qui ne change. Peu à peu, le beau vase aux parois faites d'air, qui contenait tant de promesses, se vide, s'assèche, on ne sait par quelle fente invisible. Plus rien que de la poussière, d'inertes feuilles vertes, toutes les formes de la lassitude, le feu d'un brutal soleil. Augustin ne se souvient même plus que la terre ait été trempée de fraîcheur et suintante de joie au premier tour de roue. Il n'eût pas voulu revenir à ces moments, pas plus qu'il n'eût souhaité retrouver le départ, les femmes au panier et l'allégresse des premiers villages. Tout était rance et long. Déjà, vers les endroits où se rendait la route, au bout de chemin tordu par tous les caprices des tournants, passant tantôt de ça, tantôt de là, grandissant un peu plus à chaque rencontre, posé dans les premiers moments contre un rideau de forêt, puis déblayé, perçant, dressé tout seul, rural et gris de tuiles, dans la poussière du soleil, annonciateur et parti du hameau, fin d'étape, on voyait enfin le clocher. Nous sommes à la Borie des Saules. C'est la Borie des Saules. Il faut un certain nombre de répétitions pour se pénétrer de cette vérité. Importante et ridicule, compensant la marche au pas dans la longue campagne, la diligence commence à petit trot triomphal. Elle retrouve à la fin la vitesse du départ. Le milieu s'absorbe et disparaît entre ses deux extrémités étincelantes. La diligence roule désormais devant maintes choses rangées sur le bord de la route. Les hameaux projettent ces objets devant eux en grand nombre de chaque côté des chemins vicinaux pour que les voyageurs connaissent leur approche, les prennent peut-être pour des sous-préfectures ou, au moins, pour des chefs-lieux de canton, et conçoivent de l'estime pour eux. On voit là des lessives sur le carré de prairie, des troncs d'arbres écorcés, empilés, marqués de lettres rouges par le marchand de bois, une machine à battre rangée pour la nuit, de méfiants matous errant dans les jardins, des charrues et des roues avoisinant les hangars d'un charron forgeron, un cortège de poules et d'oies qu'on dérange, et aussi des casseroles rouillées, jetés dans les orties avec de vieilles chaussures et d'autres détritus innommés. Qui réfléchit découvre immédiatement qu'il y a deux Laboris des Saules. D'abord, cet ensemble d'objets sans prestige qui voudrait bien se faire englober sous ses syllabes délicieuses. Et puis, la réalité cachée, voilée, mais substantielle, qui se dissimule sous leur timbre pur, Vous sentez tout de suite que c'est un nom doré, joyeux, avec une inexprimable nuance de soir. On ne l'aperçoit que lorsqu'on prononce, avec le velours qui convient, cet O plein de soleil jaune et d'un sentiment triste et doux qui est ce qu'on appelle la mélancolie. La borie des saules. Exactement comme pour marquise. Qu'est-ce que tu as, petit ? Demande son papa, tandis qu'Augustin s'étudie justement à prononcer ce doux nom comme il faut, ce qui a pour effet d'interrompre net l'exercice. Une fois, quand il était bien plus petit, peut-être la première année qu'eut lieu le beau voyage, les cloches de la borie des saules se mirent à sonner juste comme sonnent les cloches dans les voyages ou dans les chansons. Elle sonnait sans doute pour quelque fête, peut-être un baptême ou un mariage, car d'autres indices montraient qu'on n'était pas à dimanche. Elles jetèrent dans l'air d'onze heures du matin ces beaux sons d'or, volant en éclats en même temps qu'ils naissaient, et leurs morceaux tremblants et ondulés fondaient tout de suite dans la substance du ciel. Or, ces sonneries de cloches s'incorporèrent à l'air de la borie des saules, et toutes les fois qu'Augustin y revint, elle s'y trouvait, présente et absente à la fois. Elle l'attendait encore, bien longtemps plus tard, dans sa seconde jeunesse, alors que, le curé parti, l'église fermée faute de desservants, les diligences disparues, les camionnettes arrêtées devant un bel hôtel neuf pourvu de garage et du téléphone, il y avait beau temps que dans le clocher aux tuiles cassées, les cloches d'or ne sonnaient plus. Mais, en ces anciens jours, la borie des saules n'avait qu'une auberge, qui s'appelait Hôtel de la Providence et du Cheval Blanc. À l'appui de cette désignation, les restes d'un cheval blanchâtre piaffaient sur une enseigne verte. Quant à la Providence, le thème était trop abstrait pour la peinture. On descendait là. Les événements se multipliaient avec une nouveauté inépuisable. Les flancs des chevaux battaient, la grosse diligence s'ouvrait, se dévêtait de ses bâches, s'épanouissait. Tout le groupe exprimait fortement l'idée d'une tâche énorme correctement accomplie. Un vieil homme, barbu et doux, que maman appelait Pierre Rounet, prit la petite Christine entre ses bras. La petite pleurnichait, se rétractait. On lui expliqua que tout le monde maintenant allait monter dans la belle voiture de Tonton. La voiture à quatre roues, précisait Pierre Rounet. Alors elle protesta, ne voulant pas que les autres voyageurs, ceux de la diligence, y montassent avec elle. Les longues jambes paternelles dessinaient en l'air des tâtonnements méticuleux avant de poser leurs semelles sur les marchepieds. Cependant, d'effrayants bruits de mal retentirent au plafond de la diligence. Michelou reprenait à l'arrivée cet air d'Hercule féroce et familier, quitté depuis la gare et remisé quelque part sous les bâches pendant son inutilisation. Pierre Rounet expliquait que le Mestreval était au foire, qu'il ne rentrerait que le soir, que lui, Pierre Rounet, le remplaçait, que dans le grand domaine tout allait pas trop mal et qu'il n'y avait pas trop à se plaindre. Puis il s'en revint avec tranquillité vers des gens qui étaient là. Maman voulait faire chauffer à l'auberge du lait sucré pour les enfants. Mais de rudes paysans rougeaux, en blouse bleu-noir, parlant comme des maîtres, pleins d'inattention brutale pour ceux qui désiraient entrer, occupaient et encombraient le seuil. Pierre Rounet les poussa avec une inattention égale à la leur. Tout se passa le mieux du monde. Dans l'auberge sombre et fraîche, régnait une légère odeur aromatique qu'Augustin trouva fort agréable et que son père dit être d'absinthe et d'anisette. il y avait des ronds de vin sur l'étoile cirée jaune, le nombre des mouches était considérable. Maman essuya les bols soigneusement. Par les fenêtres encombrées de géraniums, on vit la malle voyager à dos d'homme. Elle s'approcha d'une vieille voiture naïve à trois banquettes en cuir crevassé, portant la cicatrice d'anciens capitonnages, pleine de sacs pliés où reposaient des pains frais. C'était la belle voiture de Tonton. Il fallut rabattre une banquette pour installer la malle et les multiples paniers de maman. Entre les brancards, le cheval de Tonton baissait la tête, beaucoup plus bas que ne faisaient les chevaux de la diligence. Il était aussi bien moins intimidant. Il semblait doux, plein de familiarité. Ce devait être un plaisir pour lui que de véhiculer de petits enfants. On avait envie de lui parler. De temps en temps, il faisait quelques efforts avec sa queue, avec son pied, pour chasser les mouches, mais sans aucune impatience, simplement parce que dans le monde des chevaux, c'est un geste traditionnel dont il n'y a aucune bonne raison de se dispenser. « Cette bête a l'air bien tranquille, » dit papa, pour faire plaisir à Pierre Rounet. « C'est Négro, le pauvre diable. Il est vieux, » dit Pierre Rounet. Augustin comprit, à sa stupeur, qu'il existait une sorte de vieillesse inférieure, déconcertante, sans cheveux blancs ni rides, rien qui rappelât la vieillesse des hommes. Elle se marquait par une douceur plus grande, une résistance amoindrie, une tête basse et des poils longs. Pendant que s'élargissait sa notion de l'âge, le monde extérieur aussi continuait de s'ouvrir. De grêles frappements d'enclumes, une odeur de corne brûlée, décelait un maréchal ferrant par ailleurs indiscernable. Des oies passaient à la file indienne, portant cou raide et tête sifflante. Des enfants sales entouraient la voiture. Leur groupe s'ouvrit quand Négro s'ébranla. Tout reprenait l'aspect du voyage, celui d'un frais loisir passionné. Tandis qu'on avait dû contourner les villages, on traversait maintenant de part en part un hameau sans secret. Tout y était plein de gaieté humaine, déployé exprès devant la voiture de Tonton, posé en inventaire sur chacune des rives du chemin. Le maréchal ferrant avait la bonté de s'arranger pour ferrer un cheval juste comme on découvrait enfin son invisible atelier. Et l'on éprouvait la satisfaction intellectuelle de constater que l'odeur de corne brûlée, spécialité de la borie des saules, venait bien de là. Un boulanger projetait des odeurs d'une bonté simplette qui ne se haussait pas jusqu'au gâteau. Au beau milieu d'une petite place jouxte la fontaine, des chariots de foin attelés de vaches attendaient, les aiguillons contre les joues. Peut-être venaient-ils de fermes inconnues, dépendant de la borie des saules, faisant partie de son plat pays, donnant une haute idée de son importance et de son prestige. Tout sentait l'eau claire, les brocs de fer blanc, l'arôme du foin et d'autres odeurs pareillement divines. Des maisons basses, noirâtres et heureuses, riaient au coin de boueuses ruelles. Au bout de l'une de ces ruelles, on vit un brusque porche creux qu'on dépassa sans lui laisser dire la confidence qu'il savait. « Ah, l'église !» s'écria papa. « On aurait pu s'y arrêter ?» Un vif regret traversa tant de joie. D'habitude, Augustin aimait, comme la participation à une vue supérieure, les très simples explications de son père. Il se sentait trouver tout seul de belles choses nouvelles. Mais cette fois, il y avait plus. Ses explications sur l'église, tout en la laissant parente de ses gaies ruelles sales, de ses hardis enfants en guenilles, de ce désordre des bords de route, de cette corne brûlée, de tout ce qui caractérisait la belle humeur de la borie des saules, première manière, aurait eu une portée plus haute. Peut-être eussent-elles montré comme au fond de ces boîtes qu'on appelle reliquaires la chose mystérieuse et mélancolique associée à son nom charmant. Du moins, pouvait-on sans témérité l'espérer. « Huot !» fit Pierrounet, coupant court à ce désir d'arrêt avant qu'il ne se transformât en demande précise. Exclamation bien exceptionnelle. Pierrounet et le vieux cheval n'avaient besoin d'aucune parole pour dialoguer à cause de l'amitié profonde qui les unissait. La voiture continua son voyage dans la borie des saules. La dernière maison à gauche était la belle maison du notaire. Construite à l'écart, elle représentait ce que sont ailleurs les quartiers occidentaux des villes, les banlieues de luxe. Assise sur un noble perron, dans son jardin aux fleurs mêlées de buis et de groseilliers, séparée des autres par un respectueux espace, elle entr'ouvrait sa grille avec cette familiarité qui va si bien aux grandeurs, et l'on franchissait le caniveau sur une planche pourrissante, couleur de terre. Qu'est-ce qu'un Mestreval, papa ? Demande Augustin, traversé d'un souvenir. C'est sans doute un homme qui est à la fois maître et valet. Mestre et val. Quelqu'un comme le premier domestique. Du moins, je le crois. Et cette notion nuancée par la prudence, par le sentiment d'une définition difficile, vient enrichir le bonheur d'Augustin. Quelque chose, cependant, commençait de changer dans l'air du gai hameau. La joie qui ruisselait de son cœur s'affaiblissait vers la périphérie, se refroidissait sur les lisières, s'y laissait pénétrer par certains indices avant-coureurs de la profonde campagne. Égrené sur le bord de la route, comme des souvenirs que la petite ville distribuait aux partants, il faisait pressentir qu'elle allait prendre fin, un tournant, une placette au côté confus, une maison d'aspect austère pourvue d'une porte au judas grillagé entre d'étroites fenêtres conventuelles, un ponceau final sur un trou d'eau et d'ortie, et la route perdait la couleur de boue noire qu'elle avait revêtue pour la traversée de la borie des saules. Elle reprenait le bleu froid des terres volcaniques et le coup de vent des espaces libres. À droite et à gauche, quelques jardins de carottes et de choux tentaient bien de prolonger encore un instant la borie des saules, mais ils réfléchissaient, renonçaient, bornaient leurs désirs. Le dernier de ces jardins, contenant entre ses palissades un carré de linge blanc contre les moineaux, l'agitait en signe d'adieu. Débarrassée des murailles et clôtures, tous ses buts déblayés, la route dirigeait ses courbes vers les grands pans bleus que l'horizon envoyait à la rencontre du ciel. Elle commençait, vers les hautes terres, une montée continue qui durerait 12 kilomètres. Le bon négro savait toutes ces choses. Depuis le ponceau, d'où partait la côte, il avait fait choix d'un pas de fatigue qu'il conserverait jusqu'à l'arrivée, ce qui permettait beaucoup de loisirs à sa queue. Pierrounet les savait aussi. De temps en temps, il disait « Hu !» sans rien ajouter d'autre, ni mot, ni geste, ni secousse de reine, ni, bien entendu, contact de fouet, comme si l'émission de cette douce voyelle n'avait eu d'autre but que de jeter dans l'air une note de flûte. Négro donnait alors sur le collier une légère traction supplémentaire pour faire franchir à la voiture quelque chose comme une ride inattendue, oubliée par le cantonnier transversalement sur la route. Une fois surmontée la ride imaginaire, il revenait au pas antérieur, pleinement conscient d'avoir accompli ce que souhaitait de lui le caprice humain. Il avait raison, car Pierrounet, en roulant la reine autour de la mécanique, sautait sur la route sans même arrêter la somnolente voiture et marchait auprès du vieux cheval d'un lent pas fraternel. C'était pour soulager Négro. mais Pierre Rounet disait qu'il voulait seulement se dérouiller les jambes. Il avait la pudeur de sa bonté. On traversait le coup de chaleur de 3 heures du soir. Sous le grand parapluie tenu par maman, la petite Christine chantonnait d'une voix de bébé sur 2 notes comme un oiselet nocturne. La route bleuâtre montait vers quelque chose qu'on sentait venir. Augustin était trop petit pour savoir. On atteignait la fin de la plaine alluviale, subrepticement logée dans le vaste écartement des schistes. Ils étaient là, tout proches. Il faudrait bien les aborder. Il faudrait bien s'engager entre les graves pentes souveraines. La route s'y préparait, tâtonnait autour de la décision à prendre, s'armait de courage, traînait un peu au libre soleil. À droite, rien ne se voyait derrière le haut talus surplombant. Mais à gauche, sans qu'Augustin sût bien pourquoi ni vers où, les prairies s'abaissaient plus que de raison, plus que d'honnêtes prairies qu'aucun souci n'eût agité. En réalité, elles dégringolaient vers des forêts roides, dressées à 60 degrés contre le ciel. On n'apercevait que leur partie supérieure, coupée par le pan des prairies, sans rien discerner des trous où se perdait leur descente. Entre la route et les forêts, de gaies ondulations, veloutées, savoureuses, plantées comme des parcs, semblaient y conduire d'une continuité étalée qui ne cachait rien. Mais une invisible faille cassait net ce découlement des prés. L'autre lèvre, la plus éloignée, juxtaposée sans prévenir, dans un total mépris des transitions, un vert dilué et lointain, à la franche couleur immédiate propice aux gambades. Et tout d'un coup, papa dit « Ah, voilà les gorges !» Ou peut-être il dit « C'est la grande forêt !» Augustin ne se rappelle plus les termes précis qui annoncent et déclenchent à la fois la venue d'un monde nouveau. Tel un instrument pénétrant, épieux ou bêche, dont seul le manche blanc émergerait de la terre, la route est entrée tout entière, de biais et d'un seul coup, dans l'opacité des bois. Les pâturages s'arrêtent comme au pied d'un rempart. Papa explique ce qu'il appelle la topographie du paysage, et Augustin comprend fort bien. Les bois recouvrent les 2 versants d'une longue et profonde vallée. Ils se réunissent comme les 2 feuillets d'un livre qu'on ouvre, dans l'angle aigu des pans de schiste, par-dessus un talweg d'eau grondante et de roches fracassées, au fond d'inexplorables creux boisés, à l'on ne sait combien de mètres au-dessous des emplacements visibles. Telle est du moins la manière dont il se dépeindra plus tard, à lui-même, ce cher paysage de son enfance. Mais pour le moment, ce n'est pas tout à fait ainsi que la nouvelle acquisition se présente à travers les mots de son père et les émotions de son cœur. Bien sûr, tout est changé à cause des arbres qui sont venus dans cette grande vallée pareille à un livre immense. Tout le monde peut le voir. Mais si vous croyez qu'il est facile de découvrir quel est le changement profond, fondamental, celui qui fait qu'on se sent vraiment dans la grande forêt. Augustin remarque tout de suite cette curieuse couleur de jour qui s'est mise à brunir, à ressembler presque au bord de la nuit. Tandis que dans les pays ordinaires, les pays de plaine qu'il connaît, l'air du crépuscule devient tout à fait sombre au bout d'une demi-heure, on peut ici plonger indéfiniment dans ce soir vert et fauve. Mais vous sentez bien que ce n'est pas l'essentiel. C'est un accessoire très important, mais ce n'est pas l'essentiel. Des 2 côtés de la route, entre les premiers troncs d'arbres, Ces sous-bois immédiats, rieurs et mordorés, ont l'air de cligner de l'œil et de dire « Oui, mais derrière nous, derrière les enfoncements qui suivent notre première obscurité rousse, et plus loin, derrière ceux-là, et derrière les autres encore. » Augustin répète « Les gorges, la grande forêt des gorges, pour faire chaque fois prendre à son esprit un plus grand élan vers la confidence suprême. » Certes, l'insuccès d'efforts semblables pour la borie des saules est décourageant et d'un mauvais exemple. Mais le secret de la grande forêt, plus gonflé du dedans, est plus près de s'ouvrir. Cependant, des beautés très simples respiraient autour de la route. Augustin eût déjà pu s'en apercevoir si, au lieu de se préparer pour une image unique et merveilleuse, il se fût ouvert aux immédiats bonheurs. Par exemple, on sentit une fraîcheur toute spéciale, qui ne se contentait pas de baigner vos joues et votre front, ou de remonter le long de vos bras, tel le froid de l'eau froide ou celui de l'hiver. C'était une fraîcheur que des odeurs traversaient. Elle vous portait à respirer des champignons, des résines et des fraises, et vous les présentait ensemble comme pour un goûter magnifique ou bien un grand dessert. Parfois, au milieu des terreaux et des sèves, sur la surface bien fondue de leur parfum, on percevait l'odeur granuleuse, artisane et humble de la sciure de bois. Elle vous faisait penser à des sabotiers, des charbonniers, des scieurs de long, tous les métiers forestiers qui sont dans les leçons de choses. De longs chariots à bœufs, porteurs de troncs colossaux, allaient déboucher par l'un de ces profonds chemins pleins de roches, d'eau noire et de branches mortes. Cependant, la route tournait pour mieux vous faire apercevoir tous les passages des bois. Justement, on vit, dans un tournant, pareil à une fontaine ou à une maison, une grosse chose qui fit bien des manières pour ressembler enfin à ce qu'elle était, une chapelle. Au-dessus d'une porte en fer toujours ouverte, l'inscription portait « La Font Sainte ». À l'intérieur, dans l'air bleu terne et salpêtré, la voûte gardait des restes d'étoiles jaunies en une concavité outre-mer où manquaient des morceaux. Les mêmes étoiles décoraient la robe bleue de la Sainte Vierge. Tout sentait la moisissure et la vieillesse. Il y avait des vases à fleurs artificielles et aussi des plaques de marbre à lettres d'or dont Augustin savait qu'elles s'appelaient ex voto. Sur le cintre au-dessus de l'autel étaient inscrits des mots latins. Son père les traduisit avec cette pleine et immédiate assurance qui plongeait Augustin dans la certitude et dans la paix. Une seule fenêtre mi-ronde, profonde de toute l'épaisseur des murs, laissait entrer le jour des bois, malgré un treillis de plomb et tout le fouillis de ronces qui assiégeait le mur extérieur. « Comme c'est pittoresque !» dit tout haut son père. Tandis que l'enfant commentait pour lui-même, « Pittoresque, c'est les chapelles qu'on voit dans les grandes forêts. » Cette chapelle-là était extraordinairement solitaire. Elle semblait une solitude enclose en une autre solitude, un morceau de silence épaissi et plus foncé, ménagé dans la grande taciturnité des bois. Séparée des hommes par des lieux de sauvagerie et de désert forestier, elle intimidait comme une grande personne trop grave, perdue en d'impénétrables recueillements. Maman interrompit d'une voix impérative et basse, destructive du rêve, « Nous allons commencer notre chapelet, mes petits-enfants. » Averti par des expériences antérieures, Augustin faillit s'écrier J'étais sûre que maman allait dire ça. » Mais l'irrespectueuse remarque ne put éclore, étouffée avant de naître dans cet air de frais tombeau. Maman, à genoux devant la balustrade du minuscule hôtel, récita « Je crois en Dieu », puis annonça qu'aujourd'hui, étant jeudi, on méditerait les mystères joyeux. Une fois de plus, Augustin s'étonna que maman fût si bien informée sur la correspondance des mystères et des jours. Le chapelet se lia au reste du voyage, sortit de la chapelle, vint se mélanger sous les arbres à l'écho sec et court des pas de négro. Parfois, un grand morceau de la route droite succédait au lacet. La forêt se calmait, montrait des clairières nettoyées de roches, des encombrées de ronciers, pareilles à de beaux salons en branchage, d'un vert mousseux et fauve avec des points en or. On croyait presque à la fin des bois, et le soleil, semblant faire une farce, ainsi qu'au cours d'un jeu, écartait les troncs, comme on dit « coucou ». Ses rayons teignaient la voiture d'un ton cuivré, coloré trop tôt, chargé de nuances trop riches, trempé en des teintes qu'au-dessus des plaines il ne prend que le soir. La fillette clignait des yeux et détournait la tête. Au tournant suivant, lorsque cessait la visite solaire, voici qu'à travers les percées des arbres, comme une grande récompense ou bien un secret longtemps pressenti, on apercevait enfin l'autre versant des gorges, par-dessus 100 mètres de grondements, de creux d'eau et de tout l'enchevêtrement des bois. Explorateurs de pentes inconnues, les requins découvraient dans l'opacité des sapinières de hautes et rectilignes tiges passées au rose, sans qu'on pût savoir si le soleil reportait sur l'autre versant ses teintes de couchant précoce, ou si cette toilette somptueuse, mise pour elle seule, était un caractère de l'espèce, un trait de famille, et la couleur héréditaire de leur splendide écorce. Cette chose qu'avait vainement cherchée Augustin au commencement des bois, la confidence principale que vous faisait la forêt, elle se composait toute seule maintenant qu'on ne la cherchait plus. Le tenace crissement des roues sur les arcoses de granit, le martèlement des sabots de négro, les coups de brise sans amplitude, secouant dans l'air l'odeur des conifères, la solennelle grandeur des gorges, se subordonnaient ces détails et les comprenaient dans son énormité. Les uns, inutilisables, trop humbles pour s'y fondre, laissaient tomber par terre leur pittoresque perdu. D'autres trouvaient grâce, s'y associaient. Et il y en avait un privilégié, qu'elle pénétrait pleinement la sourde récitation continue du chapelet maternel. Des « je vous salue », tous semblables, ne cessaient de grossir et de choir comme des gouttes d'eau monotones. On entendait « troisième mystère, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Fruit du mystère, l'esprit de pauvreté. » Madame Méridier récitait, l'air concentré, les yeux baissés sur ses aiguilles. À peine prononcé, au lieu de s'évaporer à travers les voûtes d'arbres, ces mots étaient recueillis par une haute puissance solitaire. Il n'y avait personne, cependant. Il n'y avait que l'amplitude silencieuse et disproportionnée des bois, mêlée à des sons de prière et de sommeil. Tout en vous intimidant, elle faisait entrer en vous une douce confiance dont on s'apercevait seulement qu'elle était là sans qu'on l'eût sentie venir. Elle allait chercher au fond de vous, pour le caresser et l'assoupir, quelque chose qui était peut-être bien votre âme, tant c'était profond. Elle vous calmait, vous baignait par en dedans, vous donnait l'envie de ne plus parler, vous inspirait de vous recueillir, comme disent les grandes personnes, et aussi de vous confier à des bras immenses qui vous aurait pris et soulevé de terre pour vous emporter en vous berçant. » Quand le chapelet était dit, la cinquième dizaine, bien et dûment suivie de tous ses accessoires latins et français, les siècles des siècles pour la dernière fois suscités, il arrivait que la petite fille dormît. Maman demandait alors, à voix basse, qu'on lui passât le panier des châles supplémentaires caché sous le siège avant. Papa déployait sur le champ toute la bonne volonté inadaptée qu'il exerçait d'habitude dans l'ordre matériel. Il interrompait la multiple lassitude de son demi-sourire. Il y dirigeait sur sa femme et son petit enfant le visage le plus tendre et le plus désarmé. Il appuyait d'une main au dossier son long corps courbé et tâtonnait avec l'autre pour dégager le panier au tissu. Il faisait voyager le panier dans les airs à des hauteurs gauchement inutiles, d'où il fut certainement tombé sans l'opportune intervention de Pierre Rounet. Mais elle, la jeune maman, avec une attention d'autant plus tendue qu'elle s'obligeait à des mouvements plus lents, multipliait les plis des couvertures sur les petits membres abandonnés. Après un interminable voyage à travers l'obscurité des gorges, on débouchait enfin dans la partie marginale des planèzes, sur de hautes et riches pâtures où sifflotait le vent du soir. Pierre Rounet faisait reposer Négro. Monsieur Méridier, se préparant à descendre, accumulait à cette fin les précautions convenables, comme pour une entreprise de la plus délicate technicité. Il arc-boutait ses bras sur la voiture, il explorait le marche-pied avec l'une de ses longues jambes timides, il sondait de l'autre la couche d'air entre la route et ses pieds. Une fois à terre, et toutes ces opérations ayant pleinement prouvé leur utilité, il développait au moyen de ses tibias des gestes qu'Augustin a cru longtemps caractéristiques de toutes les grandes personnes qui quittent les voitures, et non de son papa seulement. Il pliait, redressait, repliait chaque jambe l'une après l'autre, comme des béquilles articulées dont on s'assure qu'elles jouent bien, qu'elles sont bien graissées là où il faut. Cependant, c'était le soir. C'était un soir dans la montagne, et on avait froid. On trouva, une fois, lors d'un des plus anciens voyages de vacances, cette sortie des bois tout engluée de solitude, prise dans une brume d'hiver qui gouttait sur les touffes d'herbe. Mais cette plaisanterie fut unique. À tous les autres voyages, on revit les beaux soirs classiques, une immense lumière violette et douce, où dominait le rose froid. Elle se haussait jusqu'au zénith depuis les hirsutes premiers buissons. Elle s'étalait en largeur sur 150 degrés de ciel. De grandes barres horizontales, couleur cuivre et braise éteinte, s'immobilisaient sur le tableau du soir, sans autre mouvement que leur transformation interne, dédaigneusement acceptante, toutes au sentiment de finir. Le papa d'Augustin regardait en une intensité absorbée qui ralentissait son pas et le faisait buter contre les pierres. Mais rien de semblable pour le petit garçon. 12 heures de route, d'excitation et de jeu, l'appel incessant de paysages différents, chacun exaltant à sa manière, avait épuisé l'enfant. Il ne sentait plus rien que la fin du voyage, une lassitude heureuse, le désir d'abandonner sa tête sur quelque épaule, la gratitude des jours comblés. Un froid pur traversait son petit veston. Des mots chuchotèrent dans des antichambres de l'inconscience. « Ne t'endors pas, mon Tintin, tu aurais froid, mon petit. » Ses épaules et sa poitrine sentirent à travers le sommeil des couvertures descendues seules sans secousse ni poids comme du devait. La voiture est entrée dans un chemin de ferme. Pierre Rounet tient la bouche du bon cheval négro. Le véhicule cahote. Il tombe d'un bloc dans de profondes ornières familières, ce qui réveille Augustin. Sa maman est durement secouée, mais le paquet humain qui dort dans ses bras n'a pas bougé. Des morceaux d'une plus ancienne enfance renaissent des précédents voyages que l'enfance d'aujourd'hui accueille avec une avidité protectrice et concentrée. Tout est semblable. Le temps n'a logé entre les choses aucune séparation. On voit de moins en moins. La nuit enveloppe la voiture, mais Pierre Rounet et Négro n'ont pas besoin de jour. Tout autour d'eux, à hauteur d'homme et de cheval, il ne reste presque plus de lumière. Augustin constate, en levant la tête, qu'elle n'a cependant pas encore quitté le rond verdâtre du ciel. Des feuillages couleur d'olive noire, usés par places dégingandées, surplombent les buissons bordiers. Ce sont les frênes des alentours de fermes, régulièrement exploitées par les paysans. Une légère odeur de bestiaux, de foin sec et brise de prairie, demeure en permanence sous ses frênes. Soudain, un triangle rigide, stabilisé et dur, sort des capricieuses masses végétales et de l'inconsistance du crépuscule. Comme un long trait tiré sans règle, l'échine d'un toit apparaît tout entière, c'est la maison. On perçoit des fanaux et des voix. Cette nuit est curieuse. Très au-dessus de la maison, ces hauts espaces ne s'occupent pas des hommes et les dédaignent. Mais à ras du sol et des toits, savoureuse et épaisse, traversée de cris et de lumière, baignée dans la joie humaine, on la dirait parente des nuits de Noël. Ils sont à table, en train de souper. Mais ils ne mangent pas, comme vous le croiriez peut-être, la soupe de tous les jours, une soupe ordinaire, une soupe d'écuelle aux choux, aux saindoux et aux pimbis. Non, c'est un souper de cérémonie qu'on mange dans des assiettes. La soupe est faite de miches, elle renferme aussi du lait, du beurre, des pommes de terre et des raves qui vont bien ensemble, et du fromage gras. Les fils du fromage fondu tournent autour des cuillères. C'est comme aux grandes fêtes, au baptême, au mariage et aux premières communions. Même, on a étalé sur la table un drap de lit qui sent le soleil et les prairies et qui respire à travers la soupe. À cette table, pour le moment, quelques places vides. D'abord, celle de maman, qui est allée coucher Christine après un rapide repas d'enfant. Puis, celle de la très vieille grand-mère, la maman du tonton Blaise. C'est plus qu'une grand-mère, c'est la grand-mère de maman. C'est une bisaïeule, le papa d'Augustin lui a expliqué. La vieille grand-mère n'est pour ainsi dire jamais assise. Bien sûr, tante Agathe, la femme de l'oncle Blaise, a fait cuire le souper, mais vous pensez bien qu'il faut néanmoins surveiller à la cuisine. Même les plats qui paraissent cuire tout seuls, comme le jambonneau, le salé aux pommes de terre, qui viendront après la soupe, on dirait qu'ils ont besoin de sentir qu'on a l'œil sur eux. Quant au gigot, le vrai moment de l'arroser n'est pas quand il est roussi, mais un peu avant. Enfin, il faut savoir, n'est-ce pas? Et il faut s'assurer que tante Agathe sait. Ainsi se comportait-on, jadis, du temps que la vieille grand-mère était jeune, quand les enfants revenaient pour quelques jours dans les domaines d'autrefois sur les planèses pastorales. On aura bien le temps de faire comme on voudra quand elle n'y sera plus. L'autre tante, aussi, est toujours levée de sa place. Celle qu'on appelle Marie de Labraud, du nom du domaine où elle est née. À elle sont dues les pompes à la confiture, énorme tarte campagnarde que l'on cuit au four. Elles sont cuites depuis midi. Elles attendent bien tranquilles, c'est vrai. Mais il faut bien s'assurer qu'elles sont toujours là. On ne sait jamais. Enfin, les responsabilités sont si vastes qu'il en reste toujours une partie survivante aux besognes et se dépensant inemployée. La pièce où il mange s'appelle le salon. Elle a de grandes portes doubles avec de belles ferrures et un loquet qu'on soulève pour ouvrir. Augustin sait que les serrures ouvraient ainsi autrefois. Le plancher est fait de larges planches lavées et qui fléchissent lorsqu'on marche. Quand on traverse le couloir pavé de dalles qui s'étend derrière le salon, on se trouve devant une autre porte toute semblable, avec les mêmes ferrures et le même loquet. Elle mène à une cuisine immense, pleine de pénombres rouges et noires, avec des ronds jaunes, palpitants et variables, suivant les endroits où l'on promène la lampe à pétrole. 8 ou 10 valets de ferme mangent à une longue table. Leur dos pèse sur leurs coudes. Le tonton Blaise mange avec des choses qui sont à lui. Une fourchette, une cuillère, toujours les mêmes, très grosses, en argent. Il tient à pleine main un couteau de poche large ouvert pour le cas où il en aurait besoin. On a allumé la grande suspension. Elle donne une noble lumière de bonheur et de cérémonie sous un abat-jour vert d'eau. Tante Agathe la regarde parfois anxieusement, comme si elle avait une volonté et qu'il convienne de l'encourager de temps à autre à bien brûler. « La petite s'est endormie, » annonce maman, qui redescend des chambres. Deux autres personnes reviennent avec elle dans la salle à manger. D'abord, une autre tante, qu'on nomme Noël, et qu'Augustin n'a fait qu'entrevoir. Et aussi, une petite fille rouge, massive et farouche, que cette tante mène par la main. On l'appelle la Marie de chez nous, pour la distinguer de la Marie de Labro, parce qu'elle est née sur le domaine, comme tout autre petit animal, robuste et innocent. On entend « Ah, voici la Marie de chez nous. Viens dire bonjour aux cousins. Viens les embrasser. » Mais la Marie de chez nous cache sauvagement sa petite tête dans les jupes de sa protectrice. Un coin de bonnet blanc, un œil bleu, craintif et coléreux, c'est tout ce que les nouveaux cousins en apercevront ce soir. Elle a pourtant voulu redescendre, regrette Noël. Donne-lui un morceau de pompe, prononce l'oncle Blaise, et fais-la remonter. Juste après cet intermède, se produisit un incident qui frappa beaucoup Augustin. Grand-mère, restée debout, prit un air absent, parut chercher à s'asseoir et s'approcha d'Augustin comme si elle se trompait de chaise. Il sentit qu'on le saisissait par derrière, qu'on lui prenait le cou et la tête. Deux lèvres molles, toute une chair spongieuse et lassée, se posèrent sur son visage avec une timidité frénétique. Des mots français mêlés de patois proféraient des plaintes tremblées. « Qu'il y avait longtemps que je ne t'avais plus vu. Pauvre petiot, pauvre petiot. » Elle semblait croire Augustin lamentablement malheureux. Ces choses dépassent les petits-enfants. Beaucoup plus tard, le petiot comprit le vrai sens de cette obscure plainte sénile et qu'elle était le substitut de l'autre plus clair « J'avais bien cru ne plus te revoir. » La vieille grand-mère ne sait pas analyser son cœur. Le sentiment qui l'habite, proéminent et inassimilé, c'est une grande souffrance générale de deuil et de fin de vie. Ne pouvant songer à se trouver malheureuse parce que, dans ses profondeurs de résignation religieuse et d'acceptation héréditaire, l'idée ne lui fut jamais venue de s'écouter, comme ils disent, ayant cependant besoin, pour en faire l'objet de ses attendrissements, d'une autre personne qu'elle-même, elle choisissait de tous ses enfants le plus lointain, le plus rarement vu et le plus petit. La grand-mère est encore plus vieille qu'au précédent voyage. Elle l'est surtout autrement. Jadis, l'âge voûtait déjà son dos, froissait sa face, la teignait de violet, faisait trembler ses genoux et ses mains. Maintenant, la vieillesse pénètre des parties jusqu'alors inaccessibles, des retraites souterraines où remue la vie. C'est une fatigue de toute l'âme, et le corps et le cœur s'y rencontrent en un même désir du grand repos. Qu'a donc de changer l'air du salon, et quand est venu le cousin Jules? Peut-être lorsque grand-mère embrassait son petit enfant. Augustin ne se souvient pas de l'avoir vu entrer, à moins que ce bruit de souliers ferrés et de roues de voiture. Il est là, voilà tout, avec l'un de ses fils, Antoine, sorti pour les vacances de son petit séminaire. L'autre fils, Antonin, qu'on vient d'ordonner prêtre, n'est représenté que par sa photographie. Antoine est petit, mordant, trapu et renfrogné, comme un bouledogue sur son arrière-train. Augustin entend avec un respect intimidé l'âge considérable de 15 ans. Qu'il est vieux! Jouera-t-il comme les années passées sur les élastiques prairies? Le grand morceau de séparation que le temps n'a pas voulu loger entre les choses, c'est entre les hommes qu'il se trouve. La conversation a bien changé. Les nouveaux venus en sont le centre. Dédaignant la serviette, l'oncle Blaise s'essuie la bouche avec sa main énorme, dont on ne peut savoir si elle est propre ou sale, les champs lui ayant conféré une couleur terreuse et inlavable. De son épaisse figure pacifique, les ordres tombent indifféremment sur sa femme, sur sa bonne, sur les gars de la ferme, avec le même poids de pâtes lourdes. On parle patois. Il s'agit de foires, de prix de vaches, qui s'énoncent en pistoles, de lointains herbages dans la montagne, derrière d'interminables étendues pastorales. Toutes ces choses sont très mystérieuses. Posée par tante Agathe sur l'assiette de l'oncle, une moitié de saucisson, d'où jute un bouillon jaune, fume, sentant la sauge et le feu de bois. Enfournée par énormes bouchées, blottie au creux des morceaux de miche, il ralentit le rythme des explications. Dans ce repas, en effet, comme en bien d'autres, l'oncle Blaise se partageait en deux. Un premier oncle Blaise, velu et colossal, chargé de dévorer mécaniquement ce que servait tante Agathe, et l'autre, celui qui expliquait les bêtes à vendre aux foires et aux marchés. À eux deux, ses oncles n'ayant qu'une même bouche, quand elle était prise par l'oncle qui mangeait, l'oncle qui parlait devait, pour continuer de parler, déplacer les morceaux de miche. Le cousin Jules dit « Faut appeler le maître Val ». Il vint, ouvrit la porte, fit « Eh, bonsoir, messieurs et dames. On a fait un bon voyage ?» Puis, encourageant, « Allons, c'est ce qu'il faut. » Il sentait une bonne odeur de fumier de bête. Il se retourna pour fermer la porte. Le gigot circulait, appuyé de grosses salades vertes. À l'autre bout de la table, Madame Méridier et la grand-mère formaient à elles deux un groupe ému, fermé, lointain, tout occupé de passer. La main en cornet, le coude sur la nappe, M. Méridier prenait des leçons de phonétique. Quelques termes, très près du français, coupaient le courant du patois technique. Les autres mots, dont on ne savait ni où ils se séparaient, ni s'ils chevauchaient l'un sur l'autre, sonnaient comme une langue étrangère, et la conversation ressemblait à un brassage continu de morceaux de bois. Les voix étaient faites d'une rude matière première, utilisée à l'état brut. Un sens général assez clair finissait cependant par émerger, dans l'incognito de ce patois. Les craintes, les combinaisons, les prudences se montraient et se cachaient sans qu'on puisse savoir sur quoi elles portaient au juste, mais on devinait leur existence. Les prix, disait-il, baissaient, les marchands étaient maîtres. Tous parlaient d'une manière curieusement différente, où se reflétaient leur âge et leur tempérament. L'oncle Blaise prenait un air vieilli et résigné. Vieux chef, il fléchissait devant des chefs plus forts. Il répétait en français « Les marchands sont maîtres. Les marchands sont maîtres. » Il semblait leur faire hommage dans leur propre langue. Ces marchands maîtres qui viennent de loin parlent entre eux le langage des villes, manipulent des réalités bien trop complexes pour un patriarche de grand domaine. Le cousin Jules caresse son nez long. Il n'est pas le chef, il n'est que le gendre. Sous ses cheveux, ras comme ceux d'Antoine, entre le bout de ce nez long et ses yeux convergents, sointe une essence de fine ruse qui attend son heure. Un jour, à son tour, il sera maître au grand domaine, quand l'oncle Blaise se reposera dans la belle tombe de sa concession à perpétuité, dûment confessé, administré, oint d'huile et enfin mort, muni des sacrements et des rites qui mettent dans leur rude main positive tous les atouts possibles contre le grand risque éternel. Antoine remonte ses petites épaules lourdes, serre les dents, vrille ses yeux violents sur un point de la table où, parmi les pelures de fromage et de saucisson, invisibles pour les autres mais clairs pour lui, brillent les yeux des marchands maîtres. Sur sa figure rayonne une férocité tenace et jeune à longue échéance. Le portrait d'Antonin regarde au travers des murs des choses lointaines, sans rapport avec les préoccupations qui s'agitent devant lui. Sur le haut de ses joues inégalement rasées, de sombres yeux sans reflets maintiennent un raide ascétisme têtu. On entendit un ronflement métallique, comme si l'horloge se raclait la gorge avant d'émettre de très vieilles heures. Augustin, lassé de manger, lassé de veiller, écoutait avec gratitude la voix basse et claire de sa mère. « Il faut aller te coucher, mon petit. » L'enfant monta, les mains pâteuses de confiture et vertigineux de sommeil. Cependant, il ne dormit pas tout de suite. Trop de mirages le dominaient encore. Il sentait le grattant des draps de chanvre, l'extraordinaire odeur de vieux meubles, de pain bis et de grange qui régnait dans la salle à manger, pénétrait aussi la chambre et sans doute toute la maison. Par la fenêtre paysanne, entrait l'air de 1000 mètres, glacé par l'altitude et par la nuit. Mais sa respiration s'égalisa bientôt dans le grand froid tranquille, homogène et pur.